Je vous invite à revivre la série que j'ai consacrée à toute l'aventure du légendaire festival de Woodstock en 1969. Et voilà, c'est parti.
Dans l'épisode précédent,
Joe Cocker arbore deux des accessoires, pileux et vestimentaires, qui marquent l'été 1969 chez les hippies. Les roues-flaquettes et le t-shirt à la teinture multicolore, comme éclaboussé, qui dans son cas est plus réussi que celle de John Sebastian. Enfin, pour le reste, Joe Cocker ne ressemble absolument à personne. C'est alors que certains inventent ce chant indigène dit de la nation de Woodstock, invocation désespérée au dieu de la pluie, afin que celui-ci cesse de punir ce rassemblement innocent. Le fameux « Wow, un tant de fois entonné en chœur par tous les publics du monde pour rappeler des musiciens sur scène, naît en cette occasion.
Ladies and gentlemen, if you please.
France Inter et la RTBF. Very good trip.
How are you out there? Are you okay?
Woodstock 1969.
We must be in heaven, man.
Mishka Assayas.
Imaginez que la nuit est tombée depuis longtemps sur la journée du dimanche 17 août 1969, le dernier des trois jours de paix et de musique du festival de Woodstock. Une bonne partie des festivaliers a commencé à quitter des lieux alors que le soleil n'est pas encore couché. Pourquoi ? Eh bien pour ne pas se retrouver coincé dans des embouteillages dantesques comme lors de leur arrivée la veille ou l'avant-veille. D'autant que beaucoup doivent reprendre le travail le lendemain matin. Alors, ils ont abandonné sur place leurs sacs de couchage, les couvertures trempées, leurs tentes même parfois, et puis toute une étendue de détritus. On découvrira l'ampleur de la désolation quand le soleil se lèvera sur ce que certains n'hésiteront pas à décrire comme une scène de guerre. En attendant, même s'il est 3 heures du matin, certains des plus importants musiciens présents au festival sont restés éveillés. Pourquoi ? Eh bien, sous aucun prétexte, ils ne veulent manquer l'événement que beaucoup attendent. Le second concert public d'un groupe qui vient de naître et dont tout le monde parle, Crosby, Stills and Nash. Alors en plus, c'est une surprise, une de plus à Woodstock, il n'était pas prévu à l'affiche. Alors tous les musiciens se pressent au bord de la scène, décidés à ne pas en perdre une miette. Au moment d'entrer en scène, David Crosby se retourne. Et qui voit-il ? Jimi Hendrix, Grace Slick et Paul Kantner de Jefferson Airplane, Levon Helm et Robbie Robertson du groupe The Band qui le fixent. Il n'emmène pas large. Quand ils s'installent sur la scène avec leur guitare sèche, si frêle au milieu de cette foule exsangue et épuisée, Crosby, Stills et Nash tremblent. On est mort de peur, dit spontanément Stephen Stills au public.
24 years ago, I come into this life. The son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor. And he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why. Is my woman, can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Morning comes the sunrise, and I'm driven to my bed.
I see that it is empty and this devil's in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease.
24 years ago, il y a 24 ans, je suis entré dans cette vie, le fils d'une femme et d'un homme en conflit. Un folk blues sombre et pessimiste, composé et interprété par Stephen Stills pour le deuxième album de Crosby, Stills and Nash, augmenté dès lors du Canadien Neil Young. Un album paru en 70 et qui s'appelait Déjà Vu, hein, en français dans le texte, ce qui pour les Américains désigne la conscience d'avoir la sensation qu'on a vécu un certain événement, une certaine expérience dans une autre période de son existence, ou même, enfin, quand on croit à la métempsychose, comme les hindouistes, dans une existence passée. Une chanson qui évoque le désarroi et la solitude d'un homme jeune, bien éloigné des visions cosmiques, parfois béates, associées au psychédélisme, la musique des hippies. Oui, à Woodstock, en août 69, on avait déjà clairement changé d'époque. Et même si l'émerveillement est encore là, des nuages très sombres s'accumulent sur les têtes de cette nuée de jeunes gens qui savent déjà inconsciemment que l'atterrissage va être rude. Alors, Crosby, Stills & Nash donneront un concert en deux parties dans cette nuit du dimanche 17 au lundi 18 août 1969. La première, juste à trois voix, trois guitares, conclue par cette chanson qu'on vient d'entendre, 4 and 20. Et pour la seconde, ils sont rejoints par une section rythmique amplifiée, le bassiste Greg Reeves et le batteur Dallas Taylor, plus un ombrageux Canadien avec lequel Stephen Stills a joué au sein du groupe Buffalo Springfield, Neil Young. Neil Young qui révèle déjà son caractère ombrageux en restant justement dans l'ombre et refusant de se laisser filmer par l'équipe de cinéastes qui réalise un documentaire de, entre guillemets, cinéma vérité. Si vous m'approchez, leur dit-il, je vous cogne avec ma guitare. Ils se le tiennent pour dit et Neil Young, intransigeant, reste dans la pénombre.
Ladies and gentlemen, please welcome with us Crosby, Stills, Nash and Young.
Getting to the point where I'm no fun anymore. I'm sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I'm lonely. I am yours. You are mine. You are what you are.
Bottom end on the guitar, please.
Remember what we said and done and felt about each other.
Oh, babe, have mercy.
Don't let the past remind us of what we are not now.
Sweet Judy Blue Eyes, suite, deux points, Judy les yeux bleus. Une autre chanson, guerre optimiste, écrite et interprétée par Stephen Stills dans la nuit du 17 au 18 août 1969 au festival de Woodstock. Oui, c'est pas très joyeux de commencer une chanson d'amour par, je cite, « J'en suis arrivé au point où je suis plus marrant du tout. Parfois, ça me fait si mal que je craque. Je me sens seul. » Une chanson où Stills se demandait ce qui allait survivre de sa passion pour la chanteuse Judy Collins, qui, soit dit en passant, avait été la première à reconnaître le talent de Leonard Cohen en créant ses premières chansons comme Suzanne. Et Stills sous-entendait que cet amour n'allait pas survivre. Alors, il faut se rappeler que le premier album du trio, Crosby, Stills and Nash, sorti au printemps 69, a été un événement. On était à fond dans la période dite des supergroupes, c'est-à-dire que c'était des assemblages de talents déjà reconnus dont la réunion devait permettre d'atteindre des sommets musicaux inédits et stratosphériques.
Dans le cas de Blind Faith, le groupe formé par Eric Clapton avec Steve Winwood, qui venait du groupe Traffic, c'est clairement pas arrivé, l'expérience a été ratée. Dans celui de Crosby, Stills & Nash, ça a vraiment donné quelque chose d'étonnant et de nouveau. Quelques mots sur la jeunesse du groupe. David Crosby avait longtemps appartenu aux Byrds à Los Angeles. Alors les Byrds, c'est le groupe qui a été à la source du folk électrifié mêlé au rock'n'roll, une des sources de la musique psychédélique. Sa connaissance du jazz atonal, de certaines musiques modales venues d'Orient, comme le raga indien, il a croisé la route de Ravi Shankar, en font alors un des musiciens les plus novateurs de son temps. Quant à Stephen Stills, vous en avez parlé, c'est un guitariste et chanteur d'exception formé à la musique classique et au jazz et qui, quand il fait du blues, fait, aux oreilles de certains, jeu égal avec Jimi Hendrix. Et oui, il est aussi un bassiste et un remarquable guitariste folk doté en outre d'une sensibilité particulière aux musiques latines. Alors je vous en parlais, il a créé avec son ami canadien Neil Young, quelques années auparavant, le groupe Buffalo Springfield. C'est un des plus passionnants de son époque, à l'origine d'une fusion magique de folk, country et rock psychédélique, hélas, de trop courte durée. Quant à Graham Nash, c'est un Anglais qui a quitté en pleine gloire le groupe qu'il a fait connaître, les Hollies, pour s'installer en Californie, à Los Angeles, dans le quartier bohème de Topanga Canyon, Laurel Canyon pour être plus exact. Les Hollies, à Manchester, ont longtemps été des rivaux des Beatles et leurs harmonies vocales étaient d'un raffinement exceptionnel à la savante polyphonie. Les trois hommes se sont retrouvés donc en 68 à Laurel Canyon, un coin de verdure bohème, dans les hauteurs de Los Angeles, chez la musicienne canadienne Joni Mitchell. C'est celle-ci d'ailleurs qui les a inspirés, et même plus qu'inspirés. Elle est la première guitariste liée au folk à avoir composé des chansons sur des accordages différents, dits ouverts, fréquents dans le jazz et que, aux États-Unis, dans le folk, on n'utilisait absolument pas à ce moment-là. La façon qu'ont Crosby, Stills & Nash d'accorder leur voix est absolument magique. Tout de suite, la voix de Neil Young dans Sea of Madness, c'est la version interprétée par lui sur la scène du festival de Woodstock dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août 69. David Crosby s'émerveillera encore longtemps après de ces trois jours de musique et de paix. Je le cite. « Personne n'a tué personne, personne n'a violé personne, personne n'a tiré sur personne. Dans l'histoire de l'humanité, je crois que c'est le seul groupement de cette dimension où l'on n'a rien fait de tel. » Oui, enfin, il était un peu lyrique. En tout cas, après le passage de Crosby, Stills, Nash and Young, vous l'avez entendu, la musique se tait pour quelques heures.
Woodstock 1969 sur France Inter et la RTBF. Mishka Assayas.
Quand à 6h du matin, le groupe de blues de l'harmoniciste Paul Butterfield investit la scène, une majorité de festivaliers est déjà partie. Le champ couvert, il y a encore quelques heures de lumière scintillante, ressemble désormais à une décharge publique parsemée ça et là de groupes d'humains. Beaucoup ont laissé sur place leurs sacs de couchage englués dans la gadoue au milieu de détritus divers. Packs de lait, canettes, papier gras, pelures d'orange, etc. L'exode commence. Butterfield, qui vit à Woodstock, le village de Woodstock, est venu en voisin. Ce musicien blanc de Chicago, c'est l'équivalent américain de l'anglais John Mayall, qui a été à l'origine d'une sorte de pépinière pour les musiciens de blues londoniens et anglais en général. Un passionné de blues qui, dans sa ville de Chicago, donc, a côtoyé les plus grands, de Howlin' Wolf à Muddy Waters. Butterfield a créé un groupe qui a servi d'école aux plus grands talents de son temps, notamment les guitaristes Mike Bloomfield, accompagnateur de Bob Dylan avant The Band, Elvin Bishop, et puis aussi le saxophoniste David Sanborn. Son groupe, augmenté d'une section de cuivre, facilite le réveil des festivaliers. Paul Butterfield connaîtra une ultime gloire en soufflant magnifiquement dans son harmonica aux côtés du groupe The Band dans Mystery Train pour les besoins de The Last Waltz, le film tourné par Martin Scorsese en 1976 à l'occasion du concert d'adieu du groupe The Band. Tristement, Paul Butterfield mourra prématurément à l'âge de 44 ans en 1982 d'un abus d'alcool et de drogues diverses. Le groupe improbable qui suit le passage de Paul Butterfield annonce d'une certaine façon une autre époque, celle de la parodie et du second degré qui vont marquer en profondeur le début des années 70. Un courant qui sera à la source du glam rock et du rock dit décadent à l'origine de groupes comme Roxy Music et du virage de David Bowie en 72. Ce groupe s'appelle Shanana. C'est une troupe de chanteurs, danseurs et musiciens, tous étudiants à l'université de Columbia à New York, qui s'élance à 7h30 du matin devant des festivaliers incrédules. Les membres de Shanana portent en effet des ensembles argentés à la façon d'un Grease avant l'heure. Ils se moquent avec tendresse du rock'n'roll vocal des années 50, du doo-wop et de ses onomatopées comiques. Alors, il faut savoir une chose amusante, c'est que le très jeune guitariste de Shanana, Henry Gross, est arrivé sur scène dans un état second, selon son témoignage, puisque au Holiday Inn, où se trouvait Gross avec Jimi Hendrix, eh bien Hendrix lui a fait boire la moitié d'une bouteille de Jack Daniels. Quant à Jerry Garcia de Grateful Dead, lui a fait fumer un gros pétard. La conclusion extatique du festival de Woodstock, que tout le monde connaît, l'apparition de Jimi Hendrix, programmée en vedette, se déroule au petit matin, en plein exode. Beaucoup de festivaliers ont dû partir dans la nuit pour rejoindre leur travail. Seules quelques dizaines de milliers de personnes sont encore là. Jusqu'au bout, les organisateurs se sont demandé si Hendrix allait arriver à temps. Il a répété avec acharnement pendant plus d'un mois d'une maison louée dans la région, dans le village de Shokan. Il a eu le plus grand mal à arriver dans les temps, comme beaucoup d'ailleurs, sur le site du festival.
Ladies and gentlemen, the Jimi Hendrix Experience. I'll see you all meet again. Dick, we'd like to get something straight. We got tired of experiencing every once in a while. We just blowing our minds too much. So we decided to change the whole thing around. And call it Gypsy Sun and Rainbows. For short, it's nothing but a band of gypsies.
I have fun, thank you. I have fun, thank you.
Go!
Alors de son trio, l'Experience, Hendrix n'a gardé que son batteur, Mitch Mitchell. Il a rappelé son vieux camarade Billy Cox, un bassiste au style soul et funky. Et outre un guitariste rythmique, Larry Lee, Hendrix a inclus dans son nouveau groupe deux percussionnistes, Gerardo Vélez et puis le joueur de conga, Juma Sultan. Sur la scène du festival, Hendrix, vêtu d'une veste blanche ou manche à longues franges, présente son nouveau groupe sous le nom de Gypsy Sun and Rainbows. Parce que, je le cite, on n'est rien d'autre qu'une bande de gitans, soit en anglais Band of Gypsies. Alors le nom, orthographié différemment, Gypsies G-Y-P-S-Y-S et non I-E-S, sera adopté d'ailleurs pour l'ultime album qui sera publié du vivant du guitariste. Alors il faut un peu rappeler ce qui passe à ce moment-là par la tête de Hendrix. Il a envie de simplifier son spectacle. Il a envie d'abandonner les effets extravagants comme jouer de la guitare avec les dents, placer l'instrument derrière la tête. Bon, il y a quelques restes de ça, mais il y en a moins, pour se concentrer pleinement sur la musique. Et c'est vrai, sur la scène de Woodstock, il se passe quelque chose de miraculeux. Hendrix a l'air de mettre chaque particule de son corps au service de la musique. Lui et son groupe vont jouer plus de 2 heures, mêlant les titres connus comme Foxy Lady et Voodoo Child à ceux qu'il vient tout juste de répéter. Son usage du feedback en particulier comme élément d'une sculpture sonore musicale inédite lui ouvre une porte vers un territoire nouveau. Beaucoup, après sa disparition, s'y engouffreront, mais personne, après Jimi Hendrix, ne s'élancera avec la même grâce et la même innocence. Jimi Hendrix s'attaque à l'hymne national des États-Unis, tout le monde connaît ça, The Star Spangled Banner, à la bannière étoilée. Son bassiste, Billy Cox, est complètement ahuri. Pourquoi ? Ben, ils n'avaient absolument pas répété ça. Dans l'interprétation de Jimi Hendrix, tout va passer. Le rugissement des bombardiers au Vietnam, le crépitement des mitrailleuses, même les étincelles surgissant des magasins de munitions, les gerbes de napalm, tout est là. Mais pas seulement. C'est un hymne à la beauté, à une nouvelle naissance, comme si Hendrix venait de découvrir cette mélodie pure, le premier homme découvrant le premier feu ou la première source. Interrogé quelques semaines plus tard à la télévision à propos de sa version, entre guillemets, non orthodoxe de l'hymne national américain, Jimi Hendrix protestera et se rira. Non, il n'y a rien de non orthodoxe dans ce que j'ai fait, dira-t-il, et il ajoutera avec son sourire enfantin, j'ai juste voulu créer quelque chose de magnifique.
Je sais pas, moi je l'ai joué, c'est tout, je suis américain, je l'ai joué. On me l'a fait chanter à l'école, alors bon. Quand on parle de l'hymne national et qu'on envisage de le jouer de façon pas orthodoxe, eh bien évidemment vous allez recevoir des lettres de gens mécontents. Comment ça, pas orthodoxe ? Elle n'est pas du tout pas orthodoxe. Moi je trouvais que c'était très beau.
Thank you.
un autre miracle aura lieu après le festival de Woodstock lui-même, Woodstock, le film. C'est vrai, sans lui et son succès mondial, eh bien, les organisateurs auraient englouti plusieurs millions de dollars sans espoir de retour. La façon dont ce film s'est fait est d'ailleurs aussi extravagante que le festival lui-même, je vous racontais l'histoire en deux mots. En 1968, Martin Scorsese, tout jeune, travaille comme monteur dans un bureau de l'Upper West Side à Manhattan avec le futur réalisateur du documentaire Michael Wardley, un assistant professeur de cinéma comme lui à New York University. Wardley est passé par Paris en mai 68 et il est également réalisateur d'un concert de la chanteuse Aretha Franklin et il cherche alors des sujets de documentaire, de cinéma vérité, comme on disait alors. Alors initialement, Scorsese et lui ont l'idée de monter un concert, eux-mêmes, un concert de revival rock'n'roll, et de le filmer ensuite en 16 mm avec 6 ou 7 caméras. Alors il faut juste rappeler qu'en 68, le rock'n'roll, au sens des débuts d'Elvis, est considéré par les hippies comme une musique désuète et limitée, mais enfin il existe encore une minorité de nostalgiques fervents. Fats Domino, rappelle Martin Scorsese, Little Richard, Jerry Lee Lewis et Chuck Berry étaient plus ou moins passé à ce moment-là aux oubliettes. On les considérait un peu comme les primitifs des années 50. Mais Mike Wardley et moi, avons pensé que ce serait génial de faire un film là-dessus. Seulement, il a préféré aller à Woodstock histoire de faire un test. Au bout de 4 jours, il m'a appelé de là-bas et il m'a dit « C'est de la folie ici, il y a un monde de dingue, ça va être énorme et ils ont les cheveux très très longs. » Alors, Michael Wardley investit lui-même une somme importante pour avoir le droit de filmer le festival. Warner lui remboursera son investissement pour en acquérir les droits, bien en prend à la compagnie, le documentaire qui sera distribué dans le monde entier finira par rapporter plus de 100 millions de dollars. La réalisation du film est aussi chaotique que le festival. Wardley et son équipe disposent de 17 caméras filmant en 16 mm partout où ils le peuvent. Seulement la synchronisation du son et des images est en ce temps-là, il y a 50 ans, problématique. En plus, pour la lumière des concerts, qui n'est pas suffisante, il faut convaincre le responsable de l'éclairage, Chipmunk, de forcer la dose. C'est pas toujours facile, les groupes ne l'acceptent pas forcément. Et puis, Thelma Schoonmaker, heureusement, elle va rester la collaboratrice privilégiée de Scorsese, se charge de parlementer avec son charme et son art de la diplomatie. C'est d'ailleurs elle qui sera chargée de faire le montage du film avec une armée d'assistants. Une fois les images rassemblées et synchronisées, un travail de titan, 172 heures de film. Toute l'équipe se réunira dans un loft new-yorkais, dans la partie ouest de la 86e rue, pour visionner sur un grand mur la projection simultanée de différentes images. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller vite. Ce qui crée, ce qui n'était pas prévu, une vaste fresque animée où se déroulent plusieurs actions simultanées, montrant en même temps ce qui se passe sur scène et puis partout hors de la scène. Enthousiasmé par cette expérience, Michael Wardley appliquera ce principe au film lui-même, divisant parfois l'écran en diptyque ou en triptyque. Et d'ailleurs, il devra se battre avec Warner, qui ne croit pas du tout à cette façon de composer un film, qui croit même d'ailleurs à un désastre, et qui estime que le film a une durée beaucoup trop longue, 3h05. Wardley bataillera, insistera, il finira par obtenir gain de cause. Et il aura raison. Sorti dès 1970 et présenté au Festival de Cannes, Woodstock, le film, va enflammer le monde, tout comme d'ailleurs le disque, un triple album en vinyle, témoignage donc de ces 3 jours de paix et de musique, un objet extrêmement convoité dans les années 70. Les diverses ressorties du film en DVD, révélant à chaque fois de nouvelles images inédites, amplifieront d'ailleurs cette fascination initiale, l'étendant à des générations nouvelles. Mais enfin, il faut rappeler qu'au moment de la sortie du film, eh bien, les critiques de l'émission célèbre de France Inter qui existait déjà ont été électrisées par la vision de ce film, comme en témoigne cette archive où l'on entend les voix de Michel Pollack qui présente l'émission avec Jean-Louis Borry et Bertrand Tavernier.
C'est un film pop de reportage.
Oh oui, mais c'est plus que ça.
C'est plus que ça.
C'est un film de 8 heures, en fait. Enfin, oui. C'est Bertrand Tavernier. N'étant pas attaché de presse de ce film, je peux en parler parce que je trouve que c'est un film absolument extraordinaire.
Il n'a pas pu le mettre dans son livre encore.
Je trouve extraordinaire. Je trouve que ce n'est, en tous les cas, ce n'est absolument pas un simple reportage. C'est un film lyrique. C'est un film par moments. Dans les grands moments, on pense justement aux grands cinéastes américains comme King Vidor, comme Kazan, comme Douglas Sirk. Enfin, il y a une espèce de frénésie visuelle dans ce film, d'émotion, de poésie qui est extraordinaire.
Non, je veux dire, c'est un événement. Je crois que c'est très important. Je
sais pas quelle est
la carrière de ce film, mais depuis que je suis à Cannes, c'est le film qui m'a... Et Dieu sait, je connais pas la pop musique. C'est le film qui est le plus profondément bouleversé.
Tu as tort de ne pas connaître la pop musique.
Ah non, mais Michel, c'est sensationnel.
Je ne connais pas et je suis resté pendant 3 heures en me disant ça ne dure que.
Et il faut dire aussi, Michel, il faut dire aussi que le spectacle était dans la salle parce que tous les hippies de la Côte d'Azur, etc., avaient fait une énorme descente à Cannes et c'était prodigieux.
Woodstock 1969 sur France Inter et la RTBF. Mishka Assayas.
Alors revenons à Maurice Esserman, l'historien que nous avons rencontré au début de cette série. Aujourd'hui, il est un spécialiste de l'histoire de la gauche américaine à Hamilton College, dans l'État de New York. Et Woodstock, comme d'ailleurs pour Martin Scorsese, a été un événement transcendant de sa vie.
Well, you certainly had this sense. I mean, I talked about cresting the hill and...
J'ai parlé de ce moment où j'ai franchi le sommet de la colline et vu l'ampleur de l'événement. On avait l'impression que ce serait dans les livres d'histoire, que quelque chose d'important était en train de se passer là. Peut-être était-ce cette conscience qui a créé de si bons rapports entre les gens, qui leur a fait sentir qu'ils étaient collectivement responsables de quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir mal tourner. On voulait que ça donne un bon reflet de notre génération, de notre culture, parce qu'on pensait comme ça à l'époque, que notre culture était à part, différente. Ça ne veut pas dire, évidemment, que tous les gens sur place étaient politisés, qui partageaient tous une vision hippie mystique. Mais les années 60 ont été une décennie où les gens étaient convaincus qu'ils pouvaient faire l'histoire, qu'ils n'étaient pas le jeu de force qui les dépassait. Je crois que Woodstock a été une expression de ça.
Imaginez, écrit le journal new-yorkais Village Voice, une plage bondée mais cool, transplantée dans une zone de guerre au Vietnam pendant la mousson, et vous aurez une idée de à quoi ressemblait White Lake après l'occupation des troupes de chevaux. C'est vrai, on a frôlé la catastrophe. Il y a eu 2 morts, un par overdose fatale, un autre écrasé dans son sac de couchage par un engin nettoyant les ordures. Et puis des overdoses non fatales, il y en a eu des centaines. Des fausses couches, quelques-unes, mais on compte aussi 2 naissances. Et ce que retiennent celles et ceux qui ont participé à cette communion autour de la musique, d'un genre inédit, matrice de tant d'événements à venir, du festival de l'île de Wight l'année suivante, où d'ailleurs, fidèle à son esprit de contradiction légendaire, Bob Dylan viendra, le festival de l'île de Wight organisé en Angleterre, jusqu'à Coachella en Californie, Lollapalooza, en passant par Glastonbury en Angleterre et toutes les rave parties du monde, eh bien c'est l'amour. Comme l'a écrit Martin Scorsese, évoquant cet événement auquel il a assisté, il était en effet caméraman pour le documentariste Michael Wadley, c'est la seule fois de ma vie où j'ai entendu parler d'amour de façon sérieuse, comme d'une force capable de combattre la cupidité, la haine et la violence.
I came upon a child of God. He was walking along the road, and I asked him, "Where are you going?" And this he told me, "I'm going on down to Yasgur's farm. I'm gonna join in." So
Et oui, au moment d'arriver à Woodstock, on était une force de 500 000. Une évocation de cet événement sans précédent et unique en son genre, qui ne s'est jamais répété, même si beaucoup l'ont tenté. Une chanson composée et interprétée par la Canadienne Joni Mitchell, dont la présence à Los Angeles avait tellement inspiré Crosby, Stills, Nash and Young, et dont l'ombre a plané dans cette nuit-là. Joni Mitchell a évoqué dans cette chanson, enregistrée en 1970 et restée un classique, la ferme de Max Yasger, les pèlerins marchant au bord des routes, et son rêve, si naïf, mais tellement propre à cette jeunesse, à l'irréalisme béat et sans limite, des, je cite, « bombardiers au-dessus de nos têtes qui se transforment en papillons ». Bon, c'est pas arrivé. Les années 70 ont été une période de désillusion, de cynisme et de retour à la réalité, traversée en même temps par une énergie d'une rare puissance. Reste quand même une chose. À Woodstock, on n'a vu ni sponsor, ni partenaire, ni bannière publicitaire. Une scène nue, sans décoration, pas d'assistants, d'assistantes débordées, pas de bracelets de différentes couleurs, pas de zone VIP, pas d'équipe chargée d'habiller, coiffer et maquiller les stars. D'ailleurs, c'est une contradiction de parler des stars de Woodstock, il n'y en avait pas. Les musiciens étaient pour la plupart des hippies comme les autres, à cette différence près peut-être qu'ils vivaient cette expérience-là plus intensément, plus fort et plus loin que les autres. D'ailleurs, on les voit, ils se baladaient librement dans la foule, parlant à qui voulait. La scène était une simple estrade où chaque musicien ou groupe à tour de rôle s'est livré à son tour de magie, afin, comme l'a scandé Sly Stone, d'élever tout le monde plus haut, vers les sommets. En définitive, à Woodstock, c'est la foule et elle seule qui a pris l'essentiel de la lumière, une lumière qui, encore aujourd'hui, continue à rayonner. Reste à remercier, puisqu'on est arrivé au terme de cette série, et bien Marie-Hélène Fauquet qui a mis tout son cœur dans l'élaboration de cette série d'émissions, son cœur qui est vaste. Merci infiniment aussi à Mathilde Verfailly qui a fait un travail d'une énergie et d'une passion exceptionnelle. Merci à Gilles Gaillard qui était à la technique aujourd'hui, à Julien Michel au Pro Tools. Alors, il me reste à vous signaler plusieurs publications. Alors, pour les plus fortunés d'entre vous, il doit y en avoir, il y a un coffret tiré à très exactement 1969 exemplaires de 38 CD intégrant la totalité de la musique jouée à Woodstock. Sont offerts avec, enfin offerts, façon de parler, ça coûte dans les 700 euros, cette affaire, le facsimilé de l'affiche du film, du programme, le facsimilé, enfin l'imitation, je veux dire, d'une sangle de guitare à l'imitation de celle de Jimi Hendrix le matin de sa prestation, et il y a également le livre de Michael Lang qui fut le co-organisateur du festival, et puis bien sûr la version intégrale du documentaire Woodstock, captivant de bout en bout. Plus raisonnable, enfin plus abordable, le entre guillemets director's cut, c'est-à-dire la version du réalisateur du documentaire de Michael Wadley. Alors là vraiment il faut absolument que vous le voyez, c'est un chef-d'œuvre. Puis il y a plusieurs publications sur Woodstock. Je citerai en premier le livre de Pete Fornatale, Retour à Woodstock, traduit par Mickey Gaborio et publié chez Naïve. Elle est encore disponible chez certains libraires et sur certains sites internet. La version en anglais, enfin si vous lisez dans cette langue, s'appelle Back to the Garden, The Story of Woodstock. C'est une enquête d'une grande précision qui m'a beaucoup aidé à préparer cette émission. Il y a aussi un livre illustré, remarquable, rempli d'archives passionnantes, qui s'appelle Woodstock, Three Days That Rocked the World, sous la direction de Mike Evans et Paul Kingsbury. Trois jours de paix et de musique, c'est traduit en français par Jean-François Cornu. Il y a une préface de Martin Scorsese, qui était, comme vous savez, présent au festival, et c'est publié par les éditions de La Martinière. Que vous signalez enfin, eh bien Woodstock Live, c'est un très beau livre écrit par Julien Bitoun, bien illustré, qui passionnera les amateurs de musique et les connaisseurs. C'est un livre très documenté et très détaillé sur chacun des concerts du festival. Bon, il y a aussi un livre dont je ne peux pas trop faire la publicité ici, pour la bonne et simple raison que c'est moi qui l'ai écrit et qu'il est un peu, si vous voulez, le produit dérivé de cette émission.
Ladies and gentlemen, please welcome with us Very Good Trip sur France Inter.